Je m'appelle Dominique Salin, je suis entré au noviciat des Jésuites il y a 60 ans cette année, au moment de mon 18e anniversaire. J'ai eu une formation jésuite classique et puis une formation littéraire. J'ai été pendant 10 ans professeur de lettres classiques au lycée jésuite de Bordeaux, puis de Toulouse, le Caousou, aumônier aussi de lycée. Puis pendant 5 ans, j'ai été rédacteur en chef adjoint de la revue Études, à l'époque où Paul Valadier était directeur, rédacteur en chef. Et puis pendant 25 ans, un peu plus, j'ai enseigné au Centre Sèvres, qui est la faculté de théologie des Jésuites à Paris. J'ai enseigné la théologie et plus précisément ce que j'appelle la littérature spirituelle, c'est-à-dire cette littérature dans laquelle des croyants, depuis le IIIe siècle, développent non pas tellement la foi dans laquelle ils croient, non pas un credo, mais la foi avec laquelle ils croient, leur petite foi personnelle, leur manière personnelle de vivre leur foi. C'est dans ce cadre que je suis invité à vous parler ce soir de la course au bonheur, puisque c'est le thème de ces journées. Course au bonheur et spiritualité chrétienne. Je crois qu'il faut partir du fait d'abord que pour nos contemporains, le bonheur n'est plus à chercher en direction de la religion. Les grandes religions sont discréditées dans nos sociétés prétendument avancées. Il n'est pas non plus à chercher dans le matérialisme consumériste, évidemment. Il n'est pas davantage du côté de l'hédonisme, naguère préconisé par Michel Onfray. Les malheurs ambiants sont devenus trop obsédants. Ils gâchent le plaisir. Aujourd'hui, le bonheur est à chercher, je crois, hors idéologie, dans les principes, dans les pratiques modeste et pragmatique de ce que nous appelons le développement personnel. Candide, le héros de Voltaire, avait raison. Il faut renoncer, une fois pour toutes, à comprendre les grandes énigmes de l'existence. Il faut renoncer à réformer le monde. Concentrons-nous sur l'amélioration de ce que nous sommes et de ce qui est à notre portée. Cultivons notre jardin, puisque c'est la dernière phrase du roman de Voltaire. Laissons crever les mauvaises herbes, les pousses négatives, plantons du positif. Positivons. Et d'abord, réconcilions-nous avec nous-mêmes. Apprenons à nous accepter tels que nous sommes. Les rayons de la FNAC débordent de manuels d'horticulture psychologique et spirituelle. Il ne faut pas mépriser cette littérature. Certes, aux yeux des intellectuels, elle distille des vérités premières et des consignes de bon sens. Mais justement, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, comme disait Descartes. Et on a toujours besoin de bon sens, parce que si Descartes a dit que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, ça veut dire que chacun en a très peu. C'est pourquoi les conseils du bon docteur Christophe André, catho avoué par ailleurs, les conseils que le bon docteur Christophe André donne aux gens stressés ne doivent pas être méprisés, je crois, mais sur le marché de la course au bonheur, il n'y a pas que les trucs anti-stress. Il faut aussi et surtout compter avec les préoccupations spirituelles, proprement dite, celle qui porte sur le sens de tout ça. Dans ce domaine, l'abondance et la variété de l'offre sont impressionnantes. Une conviction commune se dégage de l'offre générale. Il n'est pas de développement personnel sérieux sans pratique de la méditation. Méditation de pleine conscience, méditation transcendantale, yoga, zazen, méditation d'inspiration bouddhiste, hindoue, etc. Je n'ai pas à présenter ici ces pratiques. Je suis à peu près sûr que parmi ceux qui sont ici, certains le feraient beaucoup mieux que moi. Et ils auront l'occasion éventuellement d'en parler tout à l'heure. Mais il me revient de souligner l'importance de la méditation. Voilà une conviction, l'importance de la méditation, que des chrétiens convaincus devraient pouvoir partager sans réserve. Ces chrétiens ont appris, par expérience, que si leur foi était restée au niveau du catéchisme de la première communion, elle n'aurait pas résisté au maelstrom de l'adolescence et aux déconstructions de la pensée moderne. Si elle est devenue une foi adulte, personnalisée, c'est parce que c'est confronté d'abord à une étude sérieuse de la Bible et de la tradition chrétienne, même si cette confrontation est demeurée incoative, mais c'est aussi et peut-être surtout grâce à une pratique persévérante de la méditation, avec des hauts et des bas, évidemment, et sous des formes différentes. Et les chrétiens ont raison de s'intéresser aux pratiques des méditants étrangers à la tradition chrétienne ou en rupture avec elle, ce qui est assez fréquent. C'est à ces chrétiens que je voudrais m'adresser pour les aider d'abord à comprendre, parce que ça ne va pas de soi et parce qu'on n'en parle pas souvent dans les églises, dans les prêches dominicaux, pour les aider à comprendre ce qui fait la singularité de la méditation chrétienne par rapport aux pratiques méditationnelles les plus répandues aujourd'hui. Bon, je laisse de côté les pratiques venues de l'Asie pour me focaliser rapidement sur les pratiques qui s'originent en Orient. Elles viennent souvent d'outre-Atlantique, comme vous voyez. Elles s'enracinent, en général, on ne le sait pas, dans la pensée des philosophes américains du XIXe siècle, comme Ralph Emerson, Henry Thoreau, Walt Whitman, William James. On les a appelés les philosophes transcendantalistes. Ils prônent une vie spirituelle exigeante, hors des sentiers battus des grandes églises traditionnelles, églises protestantes comme églises catholiques, une spiritualité branchée sur la nature et sur les forces naturelles de l'esprit humain. Leur inspiration est évidemment lointainement d'origine chrétienne, via Emmanuel Kant, mais le développement de leur inspiration se veut désormais coupé de la source. La méditation ne repose plus sur la foi en un tout autre, en une altérité. On reste dans la sphère de la nature et des forces de l'esprit humain. Pour parvenir à vivre en paix avec le monde, avec les autres et avec soi-même, la révélation d'un Dieu tout autre est devenue inutile. On s'en passe. L'esprit de l'homme est transcendant à lui-même, d'où l'appellation de transcendantalisme. Le dépassement de l'esprit par lui-même, c'est ça qu'on veut dire, l'esprit de l'homme. L'homme passe l'homme, Pascal le disait déjà. L'esprit de l'homme, le dépassement de l'esprit par lui-même est l'accès à la paix intérieure que peut produire ce dépassement demeure intérieure à ce monde, à cette vie, à notre expérience psychologique. Il n'y a pas besoin de se référer à un autre monde, à une autre vie, bref, à un Dieu. Alors, sur l'origine de ces pratiques méditationnelles, que j'appelle auto-centrées, c'est-à-dire centrées sur le moi, je vous suggère, à ceux qui sont intéressés par ça, de lire le bouquin qui vient de paraître tout récemment, de Jean-Marie Guelette, frère dominicain, intitulé « La spiritualité est américaine ». Le titre peut surprendre, mais il veut dire par là que la plus grande partie de ce qu'on trouve aujourd'hui, j'allais dire dans le commerce ou sur le marché de la spiritualité, s'origine dans ce que je viens de résumer. Évidemment, la méditation chrétienne et ses processus de simplification intérieure présentent bien des points communs avec ces pratiques méditationnelles à succès. Bien des points communs. Mais elles présentent aussi des traits, quelques traits, qui sont, je crois, irréductibles et qui sont la marque de la singularité chrétienne. Si j'ai été invité à parler ici ce soir, c'est, j'imagine, au titre de ma connaissance supposée de la tradition spirituelle chrétienne. C'est pourquoi je me sens autorisé à développer ces points de singularité. J'en retiens 4. Je les énonce avant de les développer. Le premier trait, c'est au niveau de la motivation. La motivation, oui, on peut passer au suivant. Le développement personnel est à la recherche de la paix intérieure, alors que la spiritualité chrétienne résulte de l'attachement à une personne, Jésus de Nazareth, et à son message. Recherche de la paix intérieure, attachement à une personne. Deuxième trait, au niveau du chemin, de la méthode, je dirais de façon un peu raccourcie, simpliste, que les méditants, ce que j'appelle les méditants auto-centrés, sont des assis. Les spirituels chrétiens aussi sont des assis. Moi, je commence ma journée sur les fesses. Tous les matins, pendant une heure, je m'assieds, moi aussi. Mais, assez vite, les méditants chrétiens se sentent appelés à devenir des marcheurs. Ils marchent à la suite de Jésus. Troisième trait distinctif de la méditation chrétienne, c'est le rapport à l'histoire avec un grand H. En effet, on peut dire que le développement personnel, bon, ça englobe aussi bien le stoïcisme, qui est une admirable spiritualité, une admirable philosophie, une admirable sagesse. Le stoïcisme ressemble au christianisme comme le Canada Dry au whisky, hein. C'est exactement pareil. Il manque juste Jésus-Christ. Bon. Mais pour le reste, je vous assure que la morale stoïcienne est aussi exigeante que la morale chrétienne. Et d'ailleurs, saint Paul était nourri, pétri de stoïcisme. Depuis quarantaine d'années, les exégètes se sont amusés, si je puis dire, à repérer chez saint Paul des listes de vertus, des conseils de vie morale qui sont démarqués purement et simplement de textes stoïciens. Alors on peut dire que le développement personnel repose sur des doctrines et des techniques atemporelles. Atemporelles. C'est-à-dire qu'elles sont valables toujours et partout et on les retrouve dans des sphères culturelles très différentes. Alors que la spiritualité chrétienne s'enracine dans l'histoire. D'abord dans l'histoire d'un peuple particulier, qui est Israël, et l'histoire d'un homme particulier qui s'appelle Jésus. Et puis en outre, la spiritualité chrétienne interpelle chacun dans son histoire personnelle, au moins autant que je pense, dans les pratiques du développement personnel. Et surtout, elle invite l'individu à intervenir dans l'histoire, dans le cours des événements, et non pas à s'abstenir, à prendre du recul. Elle invite à intervenir. Le quatrième trait, ce que j'appelle l'instance de l'autre, bon, ça sent un peu le lacanisme, je suis désolé, mais je ne sais pas comment dire autrement. Je veux dire par là, c'est quelque chose de très simple, que dans le développement personnel, on se préoccupe d'abord de soi et de son épanouissement. On pratique une forme de soul building. J'utilise l'expression en rapport avec le body building, qui est très à la mode aujourd'hui. Il y a des gens qui pratiquent le soul building. On reste dans la sphère du maîtrisable et du connaissable. Alors que la spiritualité chrétienne, elle, est centrée, je crois, sur l'autre qui est en nous. L'autre qui est en nous. Écrivez-le avec une majuscule ou une minuscule, peu importe. L'autre qui est en nous et autour de nous. Elle ouvre sur l'inconnaissable. Elle accepte le non-savoir. Bon, je développerai ça tout à l'heure. Bon, comme vous voyez, je n'hésite pas à simplifier, mais j'espère ne pas tomber dans le simplisme. Nous pourrons nuancer par la suite dans le débat que nous aurons. Je développe les quatre traits. Ce sera l'essentiel de mon exposé. Le premier trait, la motivation. L'adepte du développement personnel ou de la méditation autocentrée, comme je l'ai dit, est d'abord à la recherche de la paix intérieure et de la sérénité bouddhiste ou de l'apatheia stoïcienne en grec. L'apatheia, mot grec qu'on traduit souvent par impassibilité, l'apatheia signifie littéralement absence de passion. Elle désigne la tranquillité de l'âme qui est parvenu au détachement parfait. Dans la sagesse stoïcienne, c'est l'état d'esprit du sage, détaché de tout, que rien ne peut atteindre. Il n'est jamais en colère, jamais découragé, jamais agressif, jamais égocentré. C'est pourquoi le terme d'apatheia a été adopté par la spiritualité chrétienne dès le IIe siècle après Jésus-Christ. Dans le développement personnel, qu'est-ce qu'on fait ? On apprend à neutraliser les affects. On apprend à renoncer à vouloir changer ce que nous ne pouvons pas changer. Nous ne pouvons pas changer les événements, les choses, nous ne pouvons pas changer les autres, mais on travaille à essayer de changer ce que nous pouvons changer. Mon regard sur ces réalités que je ne peux pas changer, sur les autres, sur les situations, le regard que je porte sur eux. On est vraiment habité par le souci de soi. Pour parler comme le philosophe Michel Foucault, ce qui l'a intéressé dans les dernières années de sa vie, et qui est très exactement le sujet qui nous réunit ce soir, le travail sur soi. Avec un peu d'habitude, je pense que vous rejoignez ma constatation, avec un peu d'habitude, on reconnaît assez vite une personne qui est en train de faire un travail sur soi, un certain sérieux, une manière d'être posée, de ne pas réagir immédiatement à la plaisanterie ou à la provocation. Alors le risque, c'est de se laisser enfermer en soi, d'être excessivement préoccupé de soi, encombré de soi, devant des actions à entreprendre, des décisions à prendre. On peut se laisser facilement paralyser par la question « Est-ce que ce sera bon pour moi ?» Est-ce que cela ne risque pas de compromettre le fragile équilibre intérieur auquel je suis en train de parvenir ? Bref, je suis constamment dans l'observation de moi, à l'écoute de moi. Il en va exactement de même dans la voie chrétienne. Il suffit d'observer, ça m'est souvent arrivé, les novices d'un monastère ou d'un ordre religieux, ils sont extrêmement édifiants dans leur maintien, leurs propos, etc. Mais il manque vraiment de naturel et de spontanéité. Cela dit, il me faut souligner au contraire la singularité de la voie spirituelle chrétienne. Et j'espère que vous n'entendrez pas mon propos comme la tentative pour exprimer une supériorité de la voie spirituelle chrétienne. Je crois que c'est absolument vain de raisonner en termes de classification. Mais ce que je peux dire de la voie spirituelle chrétienne, c'est que celle que je connais le mieux, c'est que celui qui s'y engage, en général, ce n'est pas d'abord pour trouver la paix du cœur, ni pour se sculpter un personnage de sainteté. Ou alors, si c'est ça, il déchantera très vite. S'il s'est engagé dans cette prise en main de sa vie spirituelle, c'est parce qu'il a rencontré une personne. Il a rencontré une personne et que cette rencontre lui a brûlé le cœur. C'est à cause de Jésus de Nazareth, pour Jésus et avec lui, qu'on s'engage sur le chemin de l'évangile vécu. Le spirituel chrétien, même s'il ne s'en rend pas bien compte au début, s'engage en réalité dans un compagnonnage de plus en plus étroit avec Jésus de Nazareth. Jésus devient de plus en plus son ami, son guide, son maître, et il finit par devenir l'amour de sa vie. Je souligne au passage que aimer Jésus au premier chef n'enlève rien à l'amour que je porte à mon conjoint, à mes enfants, à mes parents, à mes amis. L'amour de Jésus n'entre pas en compétition avec les autres formes d'amour. En réalité, il n'y a qu'un seul amour. Pour le christianisme, aimer Dieu, aimer l'homme, c'est tout un. J'y reviendrai tout à l'heure. Oui, le chrétien vit dans la conviction que Jésus n'est pas seulement un professeur de vie ou un modèle de vie. Jésus n'est pas un maître spirituel à imiter et dont il faut suivre les enseignements, comme Bouddha, Siddhartha, comme Épictète, comme Socrate, comme Sénèque, comme Plotin, ou comme Mani, le fondateur, de la gnose, le père de la gnose manichéenne. Le chrétien vit dans la conviction que si Jésus est mort, son esprit est vivant en lui, en tout chrétien et potentiellement en tout être humain. Le frère, cet après-midi, dans sa conférence, l'a rappelé avec force. Et c'est très important. Dès les débuts de son chemin spirituel, le disciple se met à l'écoute de l'Esprit de Jésus. Il n'a pas une oreillette directement branchée sur un au-delà. Non, non. L'Esprit de Jésus, il suffit de lire les Écritures. C'est là qu'on le rencontre. Et puis ceux qui commentent les Écritures et qui nous les présentent et qui nous les commentent et qui nous y introduisent. Il est là, l'Esprit de Jésus. Il n'y a pas de miracle. Non seulement il intériorise l'histoire de Jésus, de ses enseignements, les moindres de ses paroles, de ses faits et gestes, sa posture dans la vie, mais il cherche à se faire entrer Jésus dans la peau. Son but, c'est de se laisser identifier à Jésus. Pouvoir dire un jour, comme saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Galates 2, 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Faut être gonflé pour dire ça quand même. Faire toute la place possible à Jésus en soi. Laisser Jésus respirer en moi. Respirer, le souffle, la respiration, l'esprit, c'est le même mot en grec, puisque la langue de la révélation chrétienne, ce n'est pas le latin, contrairement à ce que croit Mgr Lefebvre, c'est le grec. Tout le Nouveau Testament est écrit en grec. Et ça se dit pneuma. Mon souffle, ma respiration, mon esprit avec lequel je cogite, c'est pneuma. Et le Saint-Esprit, c'est to hagion to pneuma en grec, le Saint-Esprit. Évidemment, une telle identification à la personne de Jésus n'est pas donnée d'emblée. Et il faudra beaucoup de temps, d'efforts, plus ou moins adroits, d'erreurs d'aiguillage, d'épreuves, de renoncement, de déchirement, de sacrifice. N'ayons pas peur des mots. Mais vous savez, il en va de même dans la voie du développement personnel, en dehors même de la sphère christique. Il en va de même. Il y a aussi beaucoup d'épreuves à traverser. Pensons à la phrase de Rimbaud, Rimbaud qui avait renié le christianisme. Je cite, « Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d'hommes. Dure nuit, le sang séché fume sur ma face. » C'est dans une saison en enfer. Mais vous entrevoyez déjà, et c'est ça que je voudrais insister, sur quoi je voudrais insister, c'est que la motivation de départ, que entre le développement personnel et la voie chrétienne, la motivation de départ et surtout le chemin sont différents, assez différents. Le disciple de Jésus ne se bagarre pas avec lui-même pour parvenir à vivre en paix avec soi-même et avec les autres. Il se bagarre pour être de plus en plus fidèle à Jésus, ami de Jésus. Alors si, en cours de route, et de plus en plus par la suite, la paix du cœur lui devient de plus en plus habituelle, de plus en plus durable et de plus en plus profonde, c'est tant mieux. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe habituellement. Les pères du désert, les premiers moines, parlaient, insistaient sur la grâce de l'apatheia. Mais le disciple éprouve que cette paix lui est donnée par surcroît, gratuitement, gratuitement. C'est la grâce. La grâce, c'est la gratuité. C'est du rab. Il ne la mérite pas. Mais ça lui vient. Oui, Jésus a bien dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez, qui ployez sous le fardeau, et moi je vous donnerai le repos. » Mais d'ordinaire, ce n'est pas cette parole qui a mis en route les disciples de Jésus. Je peux en témoigner, j'ai assez entendu de récits de vie de moines, de moniales, de chrétiens engagés. Ce n'est pas cette parole qui les a mis en route. S'il s'est mis en route, c'est parce qu'il a été séduit par Jésus. Il ne pouvait pas faire autrement que de se laisser attirer par Jésus. C'est comme une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Comme dans toutes les histoires d'amour, parfois, ça prend la forme d'un coup de foudre. Parfois, c'est monté au cœur progressivement. Mais le disciple ne peut pas faire autrement que chercher cette intimité avec l'autre, Jésus. Dans le cœur du disciple, il y a cette certitude exprimée par cette question plutôt, exprimée par Pierre dans l'Évangile, vers qui d'autre aller ? Vers qui d'autre ? C'est lui qui a les paroles de la vraie vie. Premier trait donc, celui que j'ai développé le plus longuement, je serai plus bref pour la suite, ce qui engage dans la voie chrétienne, c'est l'amour de quelqu'un et non pas l'attrait ou la recherche de la vie intérieure. Deuxième trait différent, le chemin, la méthode. J'ai dit schématiquement, le méditant est un assis, le croyant est un marcheur. La distinction est très grossière, mais je crois qu'elle est suggestive. C'est un fait que les traités de spiritualité chrétienne, les grands traités de spiritualité chrétienne, sont structurés par l'image du chemin et plus précisément de l'ascension. Jean de la Croix, la montée du Carmel, Thérèse d'Avila, le chemin de la perfection, et avant eux, le grand classique du Moyen Âge, le disciple de François d'Assise, Saint Bonaventure, les trois voies et leur degré. L'image sous-jacente remonte à l'Ancien Testament, c'est naturellement celle du Sinaï, puisque c'est au sommet du Sinaï, au sommet d'un itinéraire ascensionnel, que Moïse a été en présence de Dieu. Le voyage d'Abraham, parti de la Chaldée, là-bas, du fin fond de la Syrie, de l'extrême-est, Ur, en Chaldée, et puis parvenu en Palestine. La marche d'Israël au désert. Il a tourné pendant 40 ans autour du Sinaï. Et dans l'Évangile, ce qui frappe, c'est que Jésus est constamment en marche, en déplacement. Il va au-devant des gens. Il est complètement différent de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, que les gens ont pris d'abord pour le Messie, ils ont cru que c'était lui. Jean-Baptiste était un statique, il était dans le désert, au bord du Jourdain, les foules venaient à lui de partout, il ne bougeait pas. Jésus, lui, il n'est pas un ermite, c'est un marcheur. Il va dans les villes, dans les bourgs, dans les campagnes, il entre dans les maisons des gens, il va au-devant des gens. Pasolini l'a merveilleusement montré dans son film « L'Évangile selon saint Matthieu », je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le fameux serment sur la montagne. Vous savez, Jésus assis sur une colline, puis les foules autour de lui avec les disciples au premier rang, Jésus qui donne son enseignement. Dans le film de Pasolini, Jésus débite le discours sur la montagne en marchant sur un sentier le long du lac de Génézareth à toute vitesse. Et les apôtres courent derrière lui, à la queue leu-leu, ils essaient de le suivre. Jésus est un marcheur. La voie chrétienne est mouvement, chemin. D'ailleurs, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Ça veut dire que la vie est chemin, que la vérité est chemin. Bien sûr, cette constatation n'exclut pas la posture de la méditation, de la station assise. Au contraire, les évangiles signalent, soulignent que Jésus s'écarte souvent, la nuit en général, pour prier. Il n'y a pas de vie spirituelle chrétienne personnelle, personnalisée, adulte, concertée, sans un minimum de méditation, de moments où on se pose, où on fait Shabbat. Prendre du temps pour contempler le Christ, se le laisser entrer dans la peau. Sainte Thérèse d'Avila est formelle sur ce plan. Sans vie d'oraison régulière, pas de progrès spirituel. Faire oraison, méditer, ruminer l'Évangile, c'est apprendre à respirer au rythme de l'Esprit du Christ. C'est-à-dire de sa respiration. Son esprit, c'est sa respiration. La vie spirituelle est d'abord une affaire de souffle. De respiration. Le mot « esprit » aujourd'hui, en français surtout, a un sens abstrait, immatériel. L'esprit de l'homme, c'est son intellect pour nous. Mais l'esprit, dans la compréhension de l'homme, qui est celle des Juifs, l'esprit a quelque chose à voir avec le souffle. Esprit, respirer, inspiration. L'ambivalence souffle-esprit existe, vous le savez peut-être, dans le latin spiritus, dans le grec pneuma et dans l'hébreu roua. La vie spirituelle est d'abord une affaire de souffle, de respiration. Elle commence avec le corps. Tous les méditants du monde le savent, qu'ils soient bouddhistes, hindouistes, soufis ou chrétien, méditer, c'est d'abord s'accorder avec sa respiration. Accorder l'esprit, le mental et le souffle. La vie spirituelle commence au niveau de la ceinture, au niveau du diaphragme, ce muscle qui permet la respiration, le souffler. La vie spirituelle, prier, c'est reprendre son souffle. L'homme moderne est un essoufflé, court après le temps, le sens, le bonheur. Méditer, c'est habiter son souffle. La singularité chrétienne commence à partir du moment où on ne médite pas pour faire le vide ou pour coïncider avec un centre énergétique profond ou pour prendre conscience de soi. Non, ce n'est pas d'abord ça. Ce n'est pas non plus chercher à accéder à un état second, une hyper-conscience de soi ou toute autre posture spirituelle. Non, méditer, l'action chrétienne, c'est chercher à s'unir au Christ Jésus. La contemplation chrétienne consiste à se laisser assimiler au Christ Jésus. Or, comme je l'ai dit, le Christ Jésus est un marcheur. Dans l'Évangile, il est toujours en déplacement et il invite ceux qui sont impressionnés par lui à le suivre. Suis-moi, Matthieu, l'assis, le banquier, le percepteur, suis-moi. Pierre, le pêcheur, assis dans sa barque, suis-moi. La vie mystique chrétienne est une itinérance. Le chrétien est quelqu'un qui est toujours prêt à bouger, à se laisser bouger. Un des grands classiques de la mystique chrétienne est un livre du XVIIe siècle, un livre allemand de Angelo Silesius, c'est un pseudonyme pour Johannes Schaeffler, intitulé « Der cherubinische Wandersmann ». On le traduit habituellement par le pèlerin chérubinique, mais vaut dire le marcheur chérubinique. Michel de Certeau, historien jésuite mort en 1986, historien et anthropologue, la dernière page de son maître livre, La fable mystique, et celle-ci, je la lis, est mystique. Celui ou celle qui ne peut s'arrêter de marcher et qui, avec la certitude de ce qui lui manque, sait de chaque lieu et de chaque objet que ce n'est pas ça, qu'on ne peut résider ici, ni se contenter de cela. Le désir crée un excès. Il excède, passe et perd les lieux. Il faut aller plus loin. Il n'habite nulle part. Fin de citation. Jésus n'a pas de pierre où reposer sa tête. Jésus, comme maître du désir, figure du désir de vie. Deuxième trait, donc, que je viens de développer, le déplacement. Troisième trait, très rapidement, le rapport à l'histoire. Ce que je viens de dire me permet d'être bref. Le développement personnel, les pratiques spirituelles autocentrées reposent sur des théories, des visions de l'homme, en quelque sorte atemporelles, valables toujours et partout pour tout le monde. Elles sont parfois liées à des conceptions du monde qui furent jadis religieuses, mais d'une religiosité intemporelle, et qui ne prend pas en compte l'histoire, ainsi qu'il en va par exemple dans la nébuleuse du New Age, ou dans les théories Gaïa. Nous sommes dans l'intemporel. La spiritualité chrétienne, elle est liée à l'histoire et à un événement historique, Jésus de Nazareth. En outre, elle appelle le disciple à s'insérer activement dans la société de son temps, à s'engager dans la vie politique, économique, sociale, même si elle n'est porteuse d'aucune théorie économique ou politique. Il n'existe pas de politique chrétienne. Il n'existe pas d'économie chrétienne. La spiritualité chrétienne n'apporte pas une connaissance sur les supposées lois cachées du fonctionnement de l'univers. Elle n'est pas une gnose, c'est-à-dire une connaissance, gnosis en grec. Elle n'est pas une gnose qui, à elle seule, dont la connaissance à elle seule libère l'esprit. Ce n'est pas une théorie qu'il suffirait de connaître pour être sauvé, c'est-à-dire pour être heureux, comme il en va dans la théosophie ou dans le manichéisme. Elle est immédiatement appel à une pratique, une praxis. Il faut mettre en œuvre la charité. L'histoire dans laquelle elle s'inscrit est une histoire d'incarnation. Ici, le paradigme exemplaire, le paradigme, c'est-à-dire le récit exemplaire, c'est Matthieu 25, vous vous rappelez, la divine surprise. Quand on questionne Jésus sur le jugement dernier, eh bien, on sera bien étonné, parce que ceux qui seront sauvés, ce n'est pas ceux qui auront crié le plus fort « Seigneur, Seigneur », mais ce seront ceux qui auront nourri l'affamé, vêtu celui qui n'avait rien à se mettre, visité le malade solitaire sur son lit d'hôpital ou le prisonnier dans sa prison, car en eux, c'est le Christ se cachait. La divine surprise de Matthieu 25. Ce qui compte, ce qui caractérise le spirituel chrétien, ce ne sont pas les états d'âme plus ou moins exquis, plus ou moins raffinés qu'il aura éprouvés, c'est ce qu'il aura fait pour le prochain, c'est-à-dire pour le Christ. C'est une spiritualité de l'incarnation, de l'encharnement. La spiritualité chrétienne ne culmine pas dans des révélations de réalités supérieures. Bon, toutes ces histoires de bilocation, de révélation sur ce qui arrivera, etc. Ça existe dans toutes les religions, mais ce n'est pas du tout chrétien. Ce n'est pas essentiellement chrétien, ce n'est pas ça. La spiritualité chrétienne culmine dans une praxis, une action. Les grands mystiques chrétiens sont de grands actifs, tout entier mobilisés par l'amélioration de la vie de leurs frères humains. Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Vincent de Paul. Ce qui les a rendus célèbres de leur vivant, ce sont leurs réalisations, fondation de monastères, d'œuvres de charité, etc. Les particularités de leur vie spirituelle personnelle n'ont généralement été connues qu'après leur mort. Ils étaient déjà bien célèbres. Mais ils ont fait de l'histoire, ils ont contribué à faire l'histoire, les grands mystiques chrétiens. La spiritualité chrétienne ouvre à l'autre, au prochain, elle se nourrit du rapport à l'autre, parce que l'autre, le prochain, c'est le Christ, c'est Dieu lui-même. Et puis d'abord parce qu'en moi, il y a autre que moi. C'est mon quatrième et dernier point, la place de l'autre. La spiritualité chrétienne commence et finit par l'expérience de l'autre. Écrivez autre avec un grand A ou avec un petit A. L'autre en moi. La spiritualité chrétienne commence, comme la recherche du développement personnel d'ailleurs, par la rentrée en soi-même, ce que la tradition chrétienne appelle l'introversion, non pas l'introspection, l'introversion. Spontanément, je suis tourné vers les choses extérieures, je cherche à trouver mon bonheur, mon plaisir, ma jouissance dans des réalités extérieures, des êtres extérieurs. Non, Dieu, tu le trouveras en toi. L'exploration du moi, de ses ressources et de ses failles. Mais ce qui met en route la spiritualité chrétienne, en réalité, c'est l'appel de l'autre. Il y a en moi une voix qui m'appelle et qui me suggère qu'il y a en moi plus grand que moi. Il y a en moi plus grand que moi. En tout homme, il y a autre que l'homme. Notre foi nous dit cela. En tout homme. Et la foi nous dit, ben c'est le Christ qui veut vivre en toi. Maître Eckhart, le grand mystique flamand, Rénan, du XIIIe, XIVe siècle, disait volontiers, le Christ ne cesse de naître en toi. Le Christ veut naître en toi. Christ n'est pas encore arrivé à sa stature plénière, qui est celle du corps de l'humanité, mais il veut naître en chacun des hommes. En nous, il y a de l'autre. Ce n'est pas seulement notre foi qui nous le dit, mais l'état des sciences humaines aujourd'hui, au début du XXe siècle, nous le crie. C'est ce que Michel de Certeau n'a cessé de souligner. Les sciences humaines, vous savez, les sciences sociales, comme on dit en Amérique, en anglais, social sciences, les sciences humaines qui semblaient triompher au temps de ma jeunesse, quand j'étais étudiant, il y a 50 ans, les sciences humaines ont bien rabattu de leur superbe. Elles nous disaient, lorsque j'étais jeune, on va tout vous expliquer, on va vous expliquer ce que c'est que l'homme. Alors c'était qui ? La psychanalyse, bien sûr. L'histoire, la sociologie, la linguistique, la sémiotique, etc. Il y a eu autour des années 60 un retour du vieux scientisme du 19e siècle. La science expliquera tout. Alors ce n'était plus les sciences dures cette fois-ci, c'était les sciences molles, les sciences humaines. Ben, c'est bien fini, vous savez, les sciences humaines sont devenues très modestes. Elles reconnaissent qu'elles ne bouclent pas. Elles reconnaissent qu'elles ne bouclent pas. Elles ne peuvent pas boucler. Au terme de leurs analyses les plus subtiles, il y a toujours un reste, un excès de l'inexplicable en l'homme. C'est cette marge d'inconnu, d'inconnaissable, qui nous intéresse. Le foyer de la vie spirituelle chrétienne, c'est cet excès, cet inconnaissable. C'est autour de cette brèche, de ce trou dans le tissu de la phénoménalité que s'organise la vie spirituelle. Ce trou, cette expérience de limite, qu'est-ce qu'il y a au-delà ? On ne sait pas. C'est ça, c'est le lieu du Christ, enfin de ce que nous appelons le Christ. L'homme est ouverture sur ce qui n'est pas lui et qui le dépasse, mais dont il ne peut rien dire. C'est très mystérieux. Quand l'homme rentre en lui-même, croit pouvoir s'habiter et se posséder parfaitement lui-même, coïncider avec lui-même, au moment où il croit que ça y est, il est immédiatement expulsé de lui-même, par l'autre qui est en lui et qui lui enjoint de sortir de soi, de faire exode. C'est la loi du désir, parce que l'homme est fondamentalement désir, désir d'altérité, désir de l'autre. Désirer, c'est sortir de soi, vouloir sortir de soi. Toute vie spirituelle commence par un exode. Toute vie spirituelle est exode. Le modèle, c'est évidemment Abraham. Dieu parle à Abraham, qu'est-ce qu'il dit ? Il ne se présente pas. Il dit « Quitte ton pays ». Tout commence comme ça. Toute la Bible, enfin l'histoire du peuple juif, commence par « Quitte ton pays ». Tel est le mouvement perpétuel et paradoxal du désir, tel que le dessine saint Augustin, notamment, du désir trouver Dieu. « Ne le cherche pas dans les créatures, rentre en toi-même, c'est en toi que tu le trouveras, plus intime à toi-même que ton plus intime ». Intimior, intimo meo. Mais à peine l'auras-tu entrevu en toi qu'il te projettera hors de toi-même pour que tu le rencontres hors de ton ego, en lui-même et pour lui-même, dans les créatures. Car l'amour te rend capable d'aimer les créatures non plus égoïstement, pour toi-même, mais pour elles-mêmes, en Dieu. C'est la dialectique de l'amour. Ça a l'air compliqué, mais c'est très simple, et c'est là-dessus que je vais conclure. En sautant le deuxième point, l'autre autour de moi, on en parlera éventuellement tout à l'heure, je conclue. Une conviction commune se dégage de l'expérience des chercheurs de sens et des praticiens de la méditation. Ceux qui ont persévéré dans ces voies difficiles vous diront tous ceci. Le bonheur, la paix intérieure, la joie, ne se conquiert pas à la force du poignet. Le bonheur, la paix intérieure, la joie sont données. Elles sont à recevoir. Chrétiens et non-chrétiens vous diront la même chose. L'important est de travailler à se laisser ouvrir le cœur pour le disposer à recevoir. Recevoir. Je voudrais vous laisser sur ce mot. Recevoir. C'est le mot clé de la vie spirituelle. Recevoir, c'est la posture de l'amour, et l'amour est universel. On oppose communément, en Occident, Eros et Agapé. L'amour humain, l'amour chrétien. L'amour égoïste et l'amour oblatif. L'amour qui prend et l'amour qui donne. Cette opposition a été thématisé amplement entre les deux guerres mondiales par le théologien protestant norvégien Nygren dans son livre Eros et Agapé, et puis dans le monde catholique par Denis de Rougemont, l'essayiste suisse, dans L'amour et l'Occident, grand livre. On oppose Eros et Agapé. En réalité, je crois. Bon, c'est Cyril Darcy qui m'a appris ça, peu importe. En réalité, dans tout amour, païen ou chrétien, humain, il s'agit et de prendre et de donner. Les deux. Alors, vous allez me dire, il faudrait savoir quand même. Ou on prend, ou on donne. Non, les deux. Des deux côtés. Chacun prend et chacun donne. La contradiction n'est qu'apparente, parce que la vie est contradictoire. C'est la vie. La vie est contradiction. Le jour où il n'y a plus de contradiction, il n'y a plus de vie. Si vous résolvez le mystère de l'existence à un principe, le matérialisme, l'idéalisme, je sais pas, tout c'est foutu. Vous laissez échapper la vie. La vie est contradiction. Pour que mon corps puisse tenir debout, il faut que les muscles qui me permettent de tenir debout se contrebalancent les uns et les autres. Sinon, ou je tombe en avant, ou je tombe en arrière. La vie est contradiction, tension permanente. Si vous évacuez la tension, il n'y a plus de vie. Prendre et recevoir à la fois. Recevoir. Et recevoir est plus difficile que prendre. Pour recevoir, il faut être pauvre et humble. Alors cette pauvreté devient richesse. Mais ce n'est pas du calcul, hein, ce n'est pas de l'égoïsme raffiné. Alors la posture de la méditation, le méditant, c'est celui qui se prépare à recevoir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait rien. Il attend. Le verbe attendre. Car François de Sales, très grand mystique, sous des apparences de bonhomie, il dit attendre, c'est une action qui n'est presque pas une action. Oui. Acquiescer, dire à Dieu, que ta volonté soit faite, c'est une action. Acquiescer, approuver, c'est une action. Mais attendre, qu'est-ce qu'on fait quand on attend? Rien. Ça, la posture de la vie spirituelle. Pour les chrétiens, l'image vivante du recevoir, c'est Jésus de Nazareth. Saint Paul résume ainsi la trajectoire du Christ dans l'Épître aux Philippiens. Il n'a pas refermé le poing sur sa divinité pour la garder, mais il s'en est dessaisi pour se présenter en homme et en homme humble jusqu'à la mort, jusque dans une mort infamante. C'est pourquoi Dieu l'a élevé, faisant éclater sa divinité. Sa divinité, Jésus l'a reçue. Il la tient du Père. Sa vie, il la tient du Père. Pour nous la donner, pour la partager avec nous. Il nous a enrichis de sa pauvreté. C'est ça la fameuse formule de Saint Paul. C'est ça ce qu'elle veut dire. Aux deux extrémités de la Bible, il y a une main qui se referme pour prendre, Adam, et une main qui s'ouvre pour donner, et pour recevoir, et pour donner, Jésus. cette image de Jésus est fondatrice de la spiritualité chrétienne. Je termine en disant que d'autres méditants, d'autres spirituels, peuvent se passer de cette image, l'image de Jésus, pour accéder à l'idéal de sainteté. Mais les chrétiens, eux, ils ne peuvent pas s'en passer. Ils disent qu'ils ne peuvent pas s'en passer, c'est la seule différence.